9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Maître Serin, te salue, auditrice, mais toi aussi, auditeur. Je suis ravi de vous retrouver pour cet échange que l'on aura durant une petite heure, au cours de laquelle nous tenterons de répondre à vos tracasseries juridiques, judiciaires, administratives, bref, tout ce qui vous pourrit la vie. Mais avant de répondre à vos interrogations, vous connaissez maintenant la musique. Évoquons l'actualité de cette semaine. Je ne parlerai pas de l'intervention de Monsieur Zemmour hier à la télé. Le discours est toujours le même. Le grand remplacement, immigration zéro. Je ne crois pas qu'on puisse devenir président avec un seul et unique sujet. Je ne parlerai pas non plus d'Emmanuel Macron. Alors je ne sais pas, mon cher Philippe, si vous avez suivi l'intervention de notre président de la République qui a fait le bilan de son quinquennat durant 2 heures. 2 longues heures d'ailleurs, pas terrible paraît-il au niveau audience. Pour ma part, je ne l'ai pas suivi. Je terminais la lecture d'un livre que vous avez eu la gentillesse de me confier. Et puis je crois que je suis saturé par tous ces politiques qui, après avoir exercé le pouvoir, en l'occurrence pendant 5 ans, viennent vous faire une sorte de mea culpa et te déclare droit dans les yeux, je vous ai compris, comme dirait l'autre, je vais changer, je serai davantage à votre écoute, et puis une fois que tu les remets au pouvoir, rebelote, même cause, mêmes effets, et là, j'en ai marre de me faire entuber systématiquement.
Ah bon ?
Systématiquement. Ouais. Idem pour ceux qui veulent accéder aux plus hautes fonctions, ils vous promettent plein de belles choses avant d'être élus, mais ils finiront de toute manière par vous décevoir. La vraie question est de savoir si un politique peut ne pas vous décevoir. C'est comme au sein d'un couple. Au début, tu fais le canard pour plaire à l'autre. Tu gommes tes défauts et ta moitié fait la même chose. Le couple est, par définition, hypocrite comme l'homme politique normal. Tu veux plaire et je connais personne qui, voulant plaire, te dit, tu sais, je suis le roi de la flatulence. Non, au début, tu joues le beau gosse, le type qui s'intéresse aux passions de ta moitié, voire même à sa famille. Et puis, une fois que t'as bien bluffé madame, ou que madame t'a bien bluffé, c'est le mariage. Ouais, on va danser toute la nuit, et ch'tah, ch'tah, ouais, on va voir si tu vas danser encore longtemps après cette soirée mémorable. Le matin, tu te rends compte que celle qui était toujours pimpante au moment où tu la draguais se réveille avec les cheveux en pétard, et ça vaut pour toi aussi, bonhomme. Avant, tu avais des abdos, tu faisais du sport, et après le mariage, t'as un gros kiosque, et le seul sport que tu fais, c'est quand tu joues à la PlayStation, normal. Tu finis par intégrer le fait que de toute manière, tu n'as plus à plaire, car t'es marié. La seule différence entre un président que tu as élu et qui te déçoit et ta moitié, c'est que tu peux toujours te séparer de ta moitié quand tu veux, alors que pour un président, tu devras attendre la fin de son mandat. Allez, après ces déclarations presque pessimistes sur nos politiques, je vous invite à nous appeler au 01 53 48 3000 pour poser vos questions. Émission sous le regard bienveillant de celui qui était beau gosse avant et après le mariage, monsieur Philippe Robichon, à vous, maestro.
Maître Serin, mais notre président, il est fit, hein, Macron, il est resté fit, hein, souvent les le pouvoir fait grossir et lui, franchement, il toujours
il a, il, a, il, a, il a les cheveux qui oui. qui sont grisonnants quand même. Enfin, ça doit user quand même comme ouais, comme bon, boulot.
Si vous voulez les cacher, vous pourrez les cacher, hein, franchement.
Ouais, comme c'est qui a fait ça
Il y a plein de
Hollande.
Tous les hommes.
Ouais, mais Hollande, il a fait ça avec la peinture noire. Lui, c'était dégueulasse et ça se voyait de trop.
Bon. Bah écoutez, vous l'avez regardé, Zemmour, hier soir ou pas chez Hanouna, ouais.
Ah ouais, j'ai regardé. Enfin bon, il est fidèle à lui-même. Il y a rien de particulier. C'est
vous n'avez pas regardé Macron, mais vous avez regardé Zemmour chez Hanouna.
Oui, oui.
Ah ouais.
Mais parce que j'avais terminé le bouquin avant, donc.
Je vous en ai prêté 2. Pourtant, ils étaient gros.
Ah, l'autre, il est gros. L'autre, je l'ai pas encore terminé. Bon. Mais je vais quand même regarder.
Mais vaut mieux lire, Maître Serin, c'est meilleur. Quand on n'a pas la télé, finalement, c'est beaucoup plus sain.
Ouais, c'est vrai.
Et vaut mieux lire des livres.
Ouais, mais ça, je vous le confirme. Ouais.
Bien. Alors, un sujet que vous nous proposez ce matin, ce sont les recours en cas d'abandon de chantier. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un abandon de chantier? Qu'est-ce qui qualifie cet abandon?
Alors, comme à chaque fois, c'est-à-dire que d'abord, pourquoi je parle de ce sujet? Parce qu'on a une famille qui est venue nous voir il y a quelque temps et qui avait chargé un entrepreneur de construire une maison. Donc le principal a été fait, c'est-à-dire qu'on a effectivement 4 murs, mais il manque quand même les accessoires qui sont importants, c'est-à-dire l'intérieur et la finition. L'abandon de chantier, en fait, on trouvera pas de définition juridique de l'abandon de chantier. C'est ce qu'on appelle une une définition jurisprudentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les décisions de justice qui ont déterminé et qui ont tenté de définir ce que signifie un abandon de chantier. L'abandon de chantier est établi à partir du moment où votre entrepreneur ne se manifeste pas auprès de vous pendant un certain temps. Alors un certain temps, ça veut dire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que pour qualifier ce certain temps, c'est là où on a souvent une difficulté avec l'entrepreneur. Vous savez, on a beaucoup d'entrepreneurs qui vont essayer de alors dans un premier temps pour prendre votre chantier, vont vous dire écoutez, je serai là du début jusqu'à fin de semaine, et puis on se rend compte, mais c'est comme ça, on le voit assez souvent, qu'ils ont plusieurs chantiers, donc ils vont vous oublier pendant quelques temps, ils vont aller dans le chantier d'à côté, et puis ils vont se remanifester à partir d'un certain temps.
Mais ça, est-ce que c'est un abandon?
Alors voilà, c'est-à-dire que la difficulté, c'est que c'est pas forcément un abandon, c'est aussi, on sait très bien qu'on a des sociétés qui fonctionnent comme ça. L'abandon de chantier, c'est à partir du moment où d'abord vous finissez par en avoir marre et qu'il n'y a pas de retour de la part de l'entrepreneur, et si vous considérez que votre patience a plus que des limites, il va falloir quand même, pour établir cette notion d'abandon de chantier, il va quand même falloir se rapprocher de votre entrepreneur, et pas que par téléphone. La procédure est claire, c'est-à-dire qu'il va falloir le mettre en demeure. Et la mise en demeure se fait par cet éternel courrier en lettres recommandées avec accusé de réception. Donc à ce moment-là, vous allez de manière très précise reprendre les conditions qui avaient été convenues avec cet entrepreneur. Et ce sont des conditions qui vont résulter normalement, si c'est un entrepreneur, comme dirait l'autre, qui n'est pas un entrepreneur au noir, mais si c'est un entrepreneur carré, vous avez dû signer un contrat avec cet entrepreneur, donc qui prévoit les modalités d'intervention et qui prévoit aussi, parfois, de manière très précise, la fin de chantier. Donc, lorsque vous lui envoyez ce recommandé à R, il va falloir reprendre toutes ces conditions qui ont été évoquées et signées donc entre vous et l'entrepreneur. Vous allez lui accorder un délai de 15 jours. De deux choses l'une. Soit il se manifeste, alors il se manifeste soit pour reprendre son chantier, soit il se manifeste, mais juste pour vous dire qu'on est dans des circonstances exceptionnelles, je dis n'importe quoi, mais des intempéries extraordinaires, ou alors on a connu cette période de Covid où évidemment, par définition, on est dans des circonstances exceptionnelles qui autorisaient les sociétés à arrêter toute activité. Mais si on n'est pas dans ces options-là, il est évidemment en faute si soit il ne vous répond pas, soit ce sont des excuses, pardon pour le terme, mais des excuses bidons. À partir de ce moment-là, donc soit il vous a pas répondu, soit il vous répond, il vous donne une réponse qui n'est pas une réponse satisfaisante, vous avez, vous, la possibilité de faire deux choses. Alors vous pouvez officiellement mettre fin à ce contrat. Et pour mettre fin à ce contrat, donc vous allez lui indiquer qu'à défaut de retour de sa part ou de réponse sérieuse dans ce délai de 15 jours, vous vous autorisez à mettre fin au contrat. Mettre fin au contrat, on va nous répondre, oui, mais moi j'ai déjà payé une partie, et puis à partir du moment où j'ai payé, j'aimerais quand même récupérer un minima. Voilà, à minima, l'argent qui a été encaissé et qui ne correspond pas à un travail donné, à un travail déterminé. Donc, dans cette optique-là, vous pouvez demander le remboursement d'une partie du montant qui a été réglé. Vous pouvez également le mettre en demeure et lui indiquer qu'à défaut de retour à partir d'un certain délai, vous allez vous adresser un nouvel entrepreneur, c'est-à-dire qu'on vous le prévenez en lui disant, mais si vous manifestez pas, en tout cas si vous n'avez pas d'excuses sérieuses, je vais m'adresser à un autre entrepreneur. Alors pareil, là c'est la même chose, vous adressez à un autre entrepreneur, il va falloir encore sortir l'argent de la poche, donc évidemment par définition ça va vous coûter cher. Mais cette première étape, c'est pour établir un peu les bases et la réponse plus ou moins sérieuse de l'entrepreneur. Si vous êtes satisfait de sa réponse, il pourrait vous dire, écoutez, je vais vous rembourser une partie et puis vous changez d'entrepreneur. Mais s'il n'y a pas de réponse ou si la réponse n'est pas, à vos yeux, satisfaisante, on passe au contentieux. Le contentieux, donc, c'est la procédure devant un tribunal. Vous êtes dans l'urgence, donc il existe une procédure particulière qu'on appelle le référé. Et dans le cadre de cette procédure de référé, Là encore, vous pouvez demander plusieurs choses au magistrat. Donc, vous pouvez demander au magistrat de faire obligation à la société de venir chez vous et de terminer les travaux. Vous pouvez demander au magistrat de condamner la société à vous rembourser une partie de vos frais et l'autorisation de changer d'entrepreneur. Mais avant de faire tout ça, évidemment, on va pas vous croire sur parole. Donc, il faudra faire appel à un huissier de justice qui va venir constater l'arrêt du chantier, qui va inviter l'entrepreneur à se manifester s'il le souhaite. C'est pour respecter ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Alors l'entrepreneur, il vient pas, il donne des explications ou pas, mais au moins ce constat d'huissier va permettre de prendre en photo le chantier et de dire voilà ce qui devait être fait, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui n'a pas été fait. Donc c'est ce document-là, ce constat d'huissier est un document qui est primordial pour la suite de votre procédure. Et puis, vous pouvez faire preuve de malchance absolue. Et la malchance absolue, c'est de tomber sur une société qui serait en liquidation judiciaire. Et malheureusement, dans le domaine du bâtiment, on sait qu'il y a beaucoup de sociétés qu'on ouvre le lundi et qu'on ferme le vendredi suivant. Donc, il faut toujours vérifier sur des sites comme société.com ou Infogreffe, voir la solidité ou pas de la société d'abord avant d'entamer ou de signer un contrat avec cette société. Mais si c'est déjà fait, vérifiez pour voir quel est l'état de cette société, s'il y a une alerte posée sur cette société. Et puis, si dans le plus grand des malheurs, cette société est en situation de cessation de paiement ou de liquidation judiciaire, vous allez avoir un seul et unique intermédiaire, c'est plus le gérant de la société, c'est le mandataire, c'est celui qui va reprendre la société, en tout cas la gérer, ou alors le liquidateur, c'est-à-dire que là, il n'y a absolument plus rien à faire, et il va falloir vous rapprocher de ces personnes-là en leur disant, voilà la situation, j'ai un contrat, voilà le problème. Ces personnes ont un mois pour vous apporter une réponse. Et puis, si vous n'avez pas de réponse, la seule option qui reste à faire, c'est, comme on dit, de faire inscrire votre créance. C'est-à-dire de dire au mandataire ou au liquidateur, cette société me doit telle somme. Vous imaginez bien que lorsque vous êtes un créancier lambda, la probabilité de récupérer votre argent, elle est infinitésimale. Il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle des créanciers privilégiés, c'est-à-dire que c'est le trésor public qui vient le premier, c'est-à-dire que s'il y a un petit peu d'argent dans la société, moi, trésor public, je vais d'abord récupérer mes sous, ensuite c'est l'URSSAF qui vient, et en règle générale, quand le trésor public et l'URSSAF sont passés par là, il reste quasiment plus rien à récupérer pour les créanciers lambda. Donc c'est vrai que ces chantiers peuvent devenir parfois un vrai cauchemar pour les particuliers. Donc avant de vous lancer là-dedans, faites quand même une vérification. Quand bien même vous avez affaire à des sociétés dont les noms sont connus, il faut savoir que ce sont des petits indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont le nom. Alors on va pas citer des noms de constructeurs connus, mais ce sont des indépendants. Donc prenez quand même le temps avant de signer avec eux, de vérifier leur solidité financière. Ça prend 5 minutes, et puis ça peut évidemment, entre guillemets, vous sauver la vie et sauver la vie de votre maison.
Si on a fait si on a contracté un emprunt pour faire ce chantier. Ce qui arrive souvent d'ailleurs, hein, quand on fait construire une maison, on fait un emprunt. Est-ce qu'on peut suspendre les paiements de l'emprunt ou pas?
Encore une fois, la difficulté, c'est que si vous avez pris un emprunt que pour ce chantier, l'établissement bancaire qui vous a prêté cet argent n'en a fi de votre difficulté avec l'entrepreneur. Eux, ils vous ont prêté l'argent. Après que vous ayez des difficultés avec la société, que la société soit en liquidation ou pas, moi, établissement bancaire, cet argent, je vous l'ai prêté. Donc, de toute manière, il va, par définition, falloir me le rembourser. Et quand bien même vous seriez amené à mettre en avant vos difficultés, ça ne me concerne pas. Moi, je vous ai prêté cet argent. Alors, pour telle ou telle activité, vous avez un problème avec. C'est, j'allais te dire, par définition, débrouillez-vous. Donc voilà, faut faire attention à ça, parce que si vous arrêtez de rembourser, ou si vous dites le chantier est arrêté, moi aussi je vais arrêter de payer, vous allez avoir des difficultés tant par rapport à votre chantier qu'avec l'établissement bancaire qui a avancé l'argent. Et ça, on peut le comprendre et l'entendre.
Maître Serrane, alors vous allez pouvoir poser vos questions juridiques à Maître Serrane dans un instant. Je vous rappelle que vous composez le 01 53 48 3000, c'est le numéro de notre standard. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, Maître Serrane répond à vos questions au 01 53 48 3000. C'est en direct et nous allons à Saint-Denis puisque Zora vous appelle Maître Serrane. Zora, bienvenue.
Bonjour Maître Serrane.
Et bonjour,
bonjour
Zora.
Philippe.
Bonjour Madame Zora.
J'ai une petite question, Maître. Comment on peut savoir ou on peut contacter un greffe? Parce que j'ai eu une affaire qui s'est passée l'audience correctionnelle le 22 février 2021. Et depuis que j'ai pas de réponse à
alors cette c'est quel tribunal qui s'est occupé de votre dossier, madame?
C'était à Toulon.
Ah, pardon?
Parce que l'affaire s'était passée là-bas. C'est un échange de voitures, puis c'était passé là-bas. Et ils ont obligé de l'affaire qu'elle soit suivie par là-bas. Parce
d'accord.
Que l'escroc, si on peut dire, il a escroqué pas mal de monde, 17 personnes exactement. Et puis il habite aux environs de Toulon et Marseille, tout ça.
D'accord. Alors vous avez dû recevoir, j'imagine, une convocation?
Oui, oui, j'ai une convocation.
Alors, vous appelez donc le tribunal dont l'adresse apparaît sur votre convocation, et vous verrez, on va vous préciser la chambre qui a rendu la décision, et il y a un numéro de procédure. Lorsque vous appelez le tribunal, vous demandez le greffe de cette chambre-là, on va vous passer le service, et puis, juste avec votre nom ou avec le numéro qui apparaît en règle générale, c'est en haut sur la gauche, donc le numéro d'RG, comme on dit, à partir de là, vous allez tomber sur un greffier qui va vous donner le délibéré, c'est-à-dire le résultat de cette audience. Ouais. Alors, soit l'audience a peut-être été renvoyée, soit l'affaire a été jugée, et à ce moment-là, on vous donnera le résultat.
Justement, j'ai appelé plusieurs fois le tribunal, et chaque fois, se sont occupés.
C'est autre chose. Après, bon, il n'y a rien qui vous interdit de leur envoyer un courrier. C'est bon, c'est comme je dis, c'est moins rapide que de passer un petit coup de fil, mais vous pouvez leur envoyer un courrier.
À quelle adresse
sur votre convocation, madame, il doit y avoir d'abord, j'imagine, le nom du tribunal concerné, et il doit y avoir l'adresse. Si il y a juste tribunal de ceci ou de cela, et ben vous allez regarder sur internet en tapant le nom du tribunal et vous trouverez l'adresse sans aucune difficulté.
Oui, maître, il y a quelque chose d'autre. Il y a le courrier que j'avais reçu parce que moi j'ai un avocat sur place.
Ouais, alors dans ce cas-là, c'est peut-être plus simple de contacter l'avocat, non?
Justement, j'ai contacté plusieurs fois l'avocat. Chaque fois, il me dit à cause du Covid, on ne peut pas avoir le greffe. Chaque fois, il me dit il a un problème, il s'absente pour quelques jours.
C'est autre chose, madame, c'est pas tant à cause du tribunal. C'est-à-dire que si, ce que je peux comprendre, vous n'allez pas à chaque fois aller sur place pour demander un renseignement, mais si vous avez un avocat. Là, les histoires de Covid et autres, ce sont plus des éléments invoqués. C'est-à-dire qu'avec le Covid, on a des dossiers qui effectivement sont audiencés, comme on dit, en tout cas passent devant le tribunal assez tardivement. Mais les tribunaux restent ouverts, vous voyez, pas comme cette première vague de Covid où tous les tribunaux étaient fermés. Donc, si c'est un avocat du secteur. J'imagine qu'en dehors de votre dossier, il doit avoir d'autres affaires sur place. Donc, c'est pas très compliqué pour l'avocat d'aller sur place et de se renseigner auprès du greffe.
Il m'a dit, j'ai relancé plusieurs fois, puis il n'a pas de réponse. Et maître, sur la citation que j'avais reçue, c'est marqué à gauche, référence de l'étude. Référence du greffe, est-ce que c'est ça que je dois...
C'est ça, c'est-à-dire que si l'avocat, pour des raisons lambda, vous donne pas l'information, vous pouvez les appeler, mais vous êtes en train de me dire que le tribunal ne répond pas.
Oui, voilà, mais sur les références de l'étude, là, les références du greffe, je peux pas avoir des petits renseignements avec tout.
Si, madame, mais le minimum, vous voyez, le minimum, c'est que quelqu'un décroche, alors... entre nous, c'est-à-dire qu'il se peut qu'un tribunal, quand vous les appelez, ils ne répondent pas dans les 5 ou 10 minutes, allez, on va même dire dans la demi-heure, parce que parfois ils sont saturés, mais si vous appelez régulièrement, il n'y a pas un tribunal en France qui ne vous répond pas, vous tombez toujours sur quelqu'un, et à partir de ce moment-là, vous leur donnerez les références que vous êtes en train d'évoquer, et eux vous donneront le résultat, ou alors peut-être que votre affaire a été renvoyée à nouveau, mais dans ce cas, ils vous donneront la nouvelle date d'audience. Et pareil, je peux pas croire que votre avocat, qui lui, par définition, si vous avez pris un avocat sur place, il doit aller au palais assez régulièrement, je ne peux pas croire que l'avocat n'ait pas d'information. C'est-à-dire, il n'y a pas mille options. Soit l'affaire a été jugée, soit l'affaire a été renvoyée. Et si c'est renvoyé, il doit être en capacité de vous donner une nouvelle date.
Je voulais savoir qu'est-ce que s'était passé ce jour-là.
Ah, mais c'est légitime, mais on est d'accord, on se dit la même chose. Mais oui. J'ai du mal à comprendre que l'avocat ne puisse pas avoir cette information.
Oui, moi aussi, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal.
Bah, écoutez, essayez d'appeler directement, mais le greffier, en tout cas celui qui va décrocher, si vous lui donnez les références, il vous dira ce qu'il en est.
Bah, d'accord, je vais essayer encore, monsieur. Merci beaucoup, maître.
Merci, Zora, pour votre appel.
Bonne journée à vous et à toute l'équipe.
Merci, Zora. Alors, on a Ahmed avec nous au 01 53 48 3000. Ahmed, bienvenue.
Allô?
Oui, Ahmed.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour, maître.
Bonjour, Ahmed.
J'ai une petite question. Moi, j'ai été employé d'un centre hospitalier pendant 4 ans et demi dans le cadre de CDD, de plusieurs CDD. Et je viens de quitter. J'ai reçu ma dernière fiche de paye récemment, sauf qu'ils ne m'ont pas versé la prime de précarité.
Et vous vous êtes rapproché des intéressés pour avoir une explication?
Non, pas encore.
Mais est-ce que c'est vous qui avez décidé de ne pas être renouvelé, ou c'est eux qui ont décidé de ne pas vous renouveler?
Je ne pourrais pas trop renouveler parce que je devais consolider mon parcours. Et du coup, j'ai dû quitter le service.
D'accord, mais vous l'avez quitté dans le cadre d'une démission, vous avez attendu la fin du contrat et vous avez dit, bon, ben, moi, je veux plus de renouvellement.
On a attendu la fin du contrat.
Bon, ben, donc, si vous avez attendu la fin du contrat, c'est pas lié, entre guillemets, à celui qui prend l'initiative. Donc, si ce montant n'apparaît pas, ça peut, entre guillemets, se régler, on va dire à l'amiable. Ça peut être un oubli de leur service ou autre. Mais il faudrait, dans un premier temps, vous rapprocher d'eux. Et voir avec les intéressés ce qui se dit.
D'accord, parfait.
Voilà, parce qu'on n'est pas, voilà, après ça peut, bon, il n'y a pas mille options, soit il y a, c'est pris en considération et puis le tir est rectifié, soit pour une raison lambda, ça pose difficulté, et dans ce cas-là, vous pourriez éventuellement saisir donc la juridiction pour demander vos droits, mais ça peut encore une fois peut-être se régler comme ça.
Parfait. Merci beaucoup, maître.
Merci à vous pour votre appel.
Merci, Ahmed. Nadia est avec nous. Nadia, bienvenue. Nadia.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je souhaiterais revenir sur le sujet
de l'abandon de chantier.
Non, semaine dernière, c'est possible.
Oui, bien sûr.
C'était le harcèlement.
Le harcèlement
sexuel, travail. C'est ça?
Oui, c'est ça. J'aurais souhaité avoir une réponse, enfin, si c'était possible.
Bien sûr.
Moi, j'ai été harcelée sexuellement et moralement dans l'entreprise où j'ai travaillé. J'ai fait remonter les faits à la direction. La direction n'en ont même pas tenu compte. Au contraire, ils m'ont licenciée pour faute grave. Ils m'ont trouvé des trucs de pacotille. Donc, j'ai été déposée plainte à la gendarmerie et je comprends pas. Il y a rien. Il y a rien. Il y a pas de suite. Il y a rien. Sachant que j'ai assez d'éléments et il y a pas de suite. En tout cas, au niveau prud'homal, oui, ça, c'est sûr, il y a de la matière. Même au niveau, mais au niveau correctionnel, j'ai rien.
Deux choses, c'est-à-dire que, alors, au niveau pénal, vous avez déposé plainte, vous avez été auditionné quand même ou pas?
Oui, j'ai été auditionné.
D'accord.
J'ai été demandé à être auditionné par une femme, parce que quand j'ai été reçue par la gendarmerie, on vous regarde de la tête aux pieds, comme si vous descendez de je ne sais d'où. Enfin, bref, après, on m'a donné une convocation pour aller à la médecine légale. Donc, j'ai été vue par un médecin. Et donc, moi, j'ai pas de documents. C'est ce qu'elle m'a dit, le médecin, elle le transmet directement à la gendarmerie avec un numéro. Après, moi, j'ai rien. Et depuis, je n'ai pas de nouvelles. Et donc, je ne sais pas.
Alors, là, quand, voilà, il faut savoir que quand on est auditionné par la gendarmerie, par la police, peu importe, les policiers et les gendarmes travaillent sous le contrôle d'un procureur de la République. Donc, oui. Rien vous interdit, madame, de contacter le tribunal compétent, celui de votre lieu de domicile, de contacter donc le procureur de la République ou les services du procureur de la République pour demander où en est l'état de votre procédure, l'état de votre dossier. Alors, c'est particulièrement long. C'est terrible, hein, ce que je vous dis là, mais on finit malheureusement par y être habitué. Mais quand c'est comme ça, faut pas hésiter. Alors, je vais pas dire à court-circuiter la gendarmerie, mais puisque de toute manière, procéduralement, ça relève ensuite de la compétence du procureur de la République, mais l'information, vous pouvez l'avoir au niveau du tribunal directement, en donnant, évidemment, votre état civil, en précisant à quel moment vous avez été auditionné par quelle gendarmerie. Et à ce moment-là, donc vous aurez une personne, un greffier, qui peut vous dire que votre dossier est encore en étude, ou alors peut-être, sous toute réserve, qu'une décision a été rendue par le procureur de la République. Il arrive parfois, ça c'est terrible, qu'une décision de classement sans suite, c'est-à-dire que le procureur considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments, soit rendue, et le client n'en est même pas informé. Donc c'est un peu fou. Mais ça peut arriver. Donc, cette information, allez la prendre et la chercher à la source. Donc, elle est directement auprès du tribunal. Donc, ça, c'est sur l'aspect pénal. Et sur l'aspect prud'homal, il y a eu une audience déjà ou pas encore ?
Non, pas encore. Là, mais l'avocat est en train de faire les démarches pour licenciement abusif. Parce que, comme j'ai eu aucune protection. Mais aucune, au contraire, on m'a relancé dans la gueule du loup. Mais vraiment, on m'a remis avec la personne qui me harcelait, qui me tenait des propos vraiment disproportionnés. Et moi, on m'a dit, c'est parce que je ne comprenais pas les mauvaises blagues d'hommes. Voilà qu'est-ce qu'on m'a dit. J'ai dit non, moi je suis pas là. Et puis on m'a dit qu'on me croyait pas, qu'on me faisait pas confiance, parce que cette personne-là, ça faisait plus longtemps qu'il était là. Donc non.
On a d'autres personnes au sein de la société qui, j'allais dire en off, vous ont dit bah ouais, c'est vrai, vous avez raison, il se comporte comme ça, ou alors c'est l'omerta.
Le directeur a quand même reconnu que le chef de quai était très sanguin, mais ça ne s'apparentait pas ni à du harcèlement sexuel, ni... non, pour lui, c'était des mauvaises blagues d'hommes, il fallait que je m'y habitue. D'accord. Non, moi, on ne me dit pas, on me touche pas sur mon intégrité physique, on ne me touche pas... Non. Il y avait des gestes déplacés, il y avait des gestuels. Non, je n'accepte pas ce genre de propos et de comportement.
Légitimement, madame, légitimement. Donc, écoutez, en tout cas, bon, puisque... Sur le plan prud'homal, vous me dites que c'est en cours, c'est une bonne chose, mais sur l'aspect purement pénal, si vous n'avez pas eu de retour, alors voilà, faut pas attendre éternellement, allez prendre l'information à la source, et puis je vous dis, si vous allez directement au tribunal de votre lieu de domicile, avec vos, ne serait-ce qu'avec votre nom, état civil, et puis la gendarmerie qui a été chargée de vous auditionner, vous aurez donc des informations et les suites qui ont été ou qui seront données à votre plainte.
D'accord. Donc, faut que j'écris au procureur. C'est ça.
Voilà. Alors, soit vous écrivez au procureur de la République avec toutes ces informations, soit... Alors, moi, je déconseille le téléphone parce que, évidemment, par téléphone, ils ne peuvent pas vérifier si vous êtes bien, entre guillemets, la personne concernée ou pas. Donc, parfois, on vous dit, écoutez, on ne donne pas d'informations par téléphone, mais vous pouvez aussi vous rendre sur place avec votre pièce d'identité.
D'accord. Pourtant, j'ai apporté à la gendarmerie des éléments qui sont quand même très parlants, mais je comprends pas que ce soit aussi long.
Il y a eu une confrontation ou pas ?
Non, du tout.
Non, pas encore. Et ça remonte à quand, ça ?
C'est ça, août 2021. Août. J'ai dénoncé les faits. Le directeur, lui, il m'a dit carrément, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas comme ça. Il m'a dit, vous, ça fait quelques mois que vous êtes dans l'entreprise, sachant que monsieur... après que je sois partie, donc j'ai donné les éléments au délégué du personnel et monsieur le directeur, donc ils ont fait une réunion extraordinaire, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Monsieur le directeur reconnaît que la personne qui m'a harcelé était un récidiviste.
Et d'ailleurs, au niveau du délégué du personnel, ça dit quoi ? Ils vous ont quand même soutenu ou alors même chose, on vous croit pas ?
Non, eux ils m'ont soutenu parce que eux ça fait plusieurs fois, parce que c'est pas la première fois qu'il y a eu de l'acharnement. D'accord. Avec d'autres personnes qui ont baissé les bras et qui sont parties sans rien faire. Je suis la seule à avoir dit haut et fort stop. Et puis, mais il y a la loi de l'omerta, parce qu'on protège le chef de quai, on le protège. Parce que ça fait 34 ans, le pauvre qu'il est dans la boîte, il ne faut pas toucher le petit roi. Parce que je ne sais pas pourquoi. Il y a la loi de l'omerta, il faut rien dire. Non, je ne suis pas d'accord.
Il faut savoir que les responsables de ces personnes-là engagent aussi leur, par définition, leur responsabilité. C'est-à-dire que si c'est pour effectivement couvrir, comme vous dites, le petit chef, elles engagent leur responsabilité parce qu'elles n'ont pas pris les mesures nécessaires pour assurer la protection des salariés. Donc c'est vrai que malheureusement, très souvent, on essaie de couvrir ça ou de régler ça entre soi. Mais si vous allez jusqu'au bout, et puis si votre position est éventuellement étayée par des témoignages, parce que c'est ça qui est important dans ce type de dossier. Il suffit pas de déclarer soi-même être victime d'eux. Donc j'espère que votre dossier est étayé aussi avec des informations dans ce sens-là.
Oui, mais le directeur, lui, il a fait comme si la sourde oreille n'allait qu'à porter plainte, elle a rien. Ben oui, ça rigole, franchement c'est un niveau de bassesse. Moi ce qui me fait mal c'est que on dénonce des faits et puis il y a personne qui agit. Ils attendent quoi? Ils attendent que, je sais pas, on peut pas jouer sur la santé mentale et psychique des gens comme ça, parce que moi ça m'a affecté énormément.
J'entends bien, vous savez, c'est le propre de toutes les procédures. C'est-à-dire qu'on fait une dénonciation, il y a intérêt de l'étayer. Si elle n'est pas étayée, vous risquez, alors j'espère que ça ira bien pour vous, mais vous risquez d'être déçu par le résultat. Mais en tout cas, rapprochez-vous du tribunal correctionnel, c'est peut-être la meilleure chose à faire dans votre cas, voir si une procédure est ouverte ou pas.
Oui, Pierre, c'est vrai que parfois on a du mal à faire entendre sa parole. Ouais,
c'est toute la difficulté.
C'est toute la difficulté, en fait. Hein. Voilà, c'est ça.
C'est le propre de ces procédures-là. On peut le comprendre. Le tribunal va pas vous croire sur parole. Donc, c'est à l'intéressé qui souffre déjà d'apporter les preuves.
Voilà ce qu'on pouvait dire. Merci pour votre appel, Nadia. Alors, Maître Serra, le temps d'une pause et d'autres questions. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
AVS revient dans un instant. Heure FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et Maître Serran répond à vos questions 01 53 48 3000. Alors, c'est Rouen, c'est ça, c'est Fatih qui nous appelle de Rouen. Fatih, bienvenue.
Oui, oui, bonjour, bonjour Maître Serran et bonjour Philippe.
Bonjour Fatih.
Oui, je vous appelle par rapport à ma sœur.
Oui.
On vous écoute.
Oui, j'ai fait un dossier à la préfecture de Rouen. Et ils ont fait un refus. Et après, j'ai fait un autre dossier à Paris. Allô?
Ah oui, on... Alors, le refus... Alors, d'abord, il faut savoir que les préfectures, c'est en fonction de l'adresse que vous déclarez. C'est-à-dire que là, vous me dites Rouen, après, vous me dites Paris. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas contesté Rouen?
Parce qu'il y avait un bon avocat à Paris. Et ma sœur, elle l'a fait, elle était chez elle. Et elle a fait un autre dossier à Paris.
D'accord, mais le dossier de Rouen, je veux dire, officiellement, il a été déposé, et il y a une réponse ou pas?
Non, ils ont fait un refus. Après, ils m'ont rien envoyé, ils m'ont envoyé un mail comme quoi il y avait un refus.
D'accord.
Et après,
mais ce refus n'a jamais été contesté. C'est un refus qui date de longtemps?
De cette année, 2021.
Alors, vous savez, en règle générale, quand il y a un refus, madame... la préfecture se contente pas juste de dire on refuse, c'est-à-dire qu'on vous dit on refuse et y a une décision qu'on appelle une obligation de quitter le territoire. Est-ce que vous avez reçu ça?
Oui, elle l'a fait, mais après moi j'ai dit c'est bon, ils ont refusé. Elle était chez ma sœur et elle a fait un autre dossier là-bas et là elle a eu sa carte de séjour. Mais la préfecture de Paris, ils demandent le refus de Rouen.
Ben
et là
oui.
On a du mal à voir à ça.
Non, mais ce qui est normal, c'est-à-dire que souvent les personnes ne se rendent pas compte que si vous déposez un dossier à Rouen et puis demain vous le déposez dans une autre ville, forcément, la deuxième préfecture sera informée de la décision qui a été rendue par la préfecture initiale, la préfecture où vous avez déposé le premier dossier. Mais quelle est la difficulté? Donc vous me dites qu'ils l'ont donné quand même un titre, mais on vous demande de donner la décision de Rouen.
Voilà, et là j'attends toujours, et ma sœur elle est handicapée, et elle a besoin de beaucoup de choses parce qu'elle ne peut pas toucher rien du tout, et c'est dur pour elle.
J'entends bien, mais quelle est la difficulté quand vous me dites Paris demande la décision de Rouen?
Ben j'ai envoyé des mails à Rouen et j'ai pas de nouvelles. Ça fait un mois, plus d'un mois. D'accord. Et on n'a pas de.
Mais vous m'avez dit que vous aviez reçu l'obligation de quitter le territoire, non?
Oui, mais je l'ai perdu. J'arrive pas à le trouver, c'est pour ça.
Bon, ben dans ce cas-là, faut peut-être prévenir Rouen en leur disant que qu'un dossier est déposé à Paris, que Paris vous demande telle information. Ça devrait, en principe, peut-être les faire accélérer. Mais moi, ce qui me surprend, c'est la demande de Paris. Pourquoi est-ce que Paris vous demande ça? Si vous me dites qu'ils ont régularisé votre sœur.
Oui, elle a trouvé sa carte de séjour et tout. Ils l'ont dit, mais il nous faut le refus de Rouen. Ah ben nous, on a envoyé des mails, on a envoyé des courriers pour Rouen. On n'a pas de. Et en plus, elle a un avocat en plus là-bas et je comprends pas.
D'accord. C'est vous qui avez prévenu Paris en disant il y a Rouen qui a été saisi ou Paris l'a découvert tout seul?
C'est eux.
Bah oui.
Eh ouais.
Bah oui.
Donc, vous savez, il y a une option, c'est-à-dire qu'il pourrait, sur la base de la décision de Rouen, revenir sur le titre qui a été remis à votre sœur. Hein. C'est pas exclure.
Donner, maître Cyrane, ils veulent pas le donner.
Non, mais ça, j'entends bien. Sauf que vous me dites qu'ils l'ont quand même donné, même si vous n'avez pas le support papier. Mais la préfecture de Paris pourrait revenir sur sa décision. C'est-à-dire dire, attendez, vous nous avez pas dit que Rouen avait été saisi, que Rouen avait refusé. Cette base-là, ils pourraient refuser définitivement.
Oui, maître Cyrane, on l'a déjà fait comme avec l'avocat qui était à Paris. On l'a dit, comme quoi elle avait un refus.
Après, je viens de vous poser la question, madame, vous me dites non, c'est pour ça.
Oui, non, on l'a...
Voilà, Paris était informé que Rouen avait rendu une décision, c'est ma question.
Voilà, mais j'ai envoyé le mail et il y a une autre... l'avocat, elle a changé, elle c'est pas la même et elle sait pas le dossier, c'est un peu compliqué.
Bon, pour l'instant, Paris demande la décision de Rouen.
Voilà, c'est ça.
C'est comment l'obtenir, en fait. C'est juste ça, là.
Le truc, c'est quand même plus facile pour la préfecture de Paris de demander directement à la préfecture de Rouen. Ça me surprend un peu. Mais, enfin, à part une demande faite, alors, par vous-même ou par votre avocat, il n'y a pas d'autre option, hein. Ouais. Sauf à aller sur place.
Bah oui, j'étais sur place à Rouen, et ils m'ont dit, vous avez envoyé un mail, faut attendre. C'est tout.
Ah bon, Donc, vous avez quand même, entre guillemets, une réponse. C'est-à-dire que, bon, si on vous dit qu'il faut attendre, alors je sais que c'est terrible, mais quand c'est comme ça, même un avocat ne pourra pas aller plus vite. Hein.
D'accord. Mais j'espère, elle aura son refus.
Écoutez, je vous le souhaite, madame, mais moi, ma crainte, c'est que si Paris demande ça, on ne demande jamais de ce genre d'informations gratuitement.
Ouais.
Vous voyez, il pourrait se baser sur cette décision et dire on a donné satisfaction à votre sœur, mais on va peut-être retirer notre titre. C'est des situations qui arrivent.
Oui, mais elle a eu son récépissé de 3 mois et ils attendent jusqu'à qu'on ramène le.
J'entends bien, mais on le dit souvent dans cette émission. Vous savez, le récépissé, ça ne veut pas dire qu'une préfecture va vous donner raison. Le récépissé, ça veut dire vous avez déposé un dossier, on va l'étudier. Le récépissé, ça veut dire que ça.
D'accord.
Et on peut avoir des récépissés renouvelés une fois, deux fois, trois fois, et à la fin avoir une décision négative. Voilà, faut faire attention. Hein. Souvent dans l'esprit des gens, quand on a un récépissé, on se dit banco, ça va passer, mais ça veut pas dire ça le récépissé. Ça veut dire vous avez déposé le dossier. Voici un document qui justifie du dépôt du dossier, qui vous autorise pour l'instant à rester sur le territoire français, parfois même à travailler. Mais c'est toujours du provisoire. Moi, préfecture, je peux revenir sur cette décision. Et si je vous dis, je ne veux pas vous régulariser, votre récépissé devient caduque. C'est-à-dire qu'il ne s'applique plus.
D'accord, maître. Merci beaucoup. Hein.
Merci à vous pour votre appel.
Bon, j'espère que ça répond à votre question, en tout cas. Merci, Fatih. Bon, 2 minutes, est-ce qu'on a le temps de... Non, c'est compliqué de prendre quelqu'un en 2 minutes, maître Cyrane.
Bah déjà, le fait qu'on soit en train d'échanger tous les deux, là, au moment où je vous réponds, ça prend déjà des secondes. Et donc, ce sera injouable, me semble-t-il.
Non, je vais voir si vous êtes capable de relever le défi. En fin d'année, je sais que vous êtes un peu fatigué.
Non, mais tout dépend de la nature de la question.
Poussif, vous voyez.
Carrément, poussif.
Ouais, poussif. Ouais.
Ah, c'est un vieux mot, ça.
Oui, poussif. Ouais.
Mais bon, on le prend.
On prend.
Allez, je ne suis pas poussif.
Vous jouez avec... Tiens, on a Selma. Selma, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous arrivez sur la ligne, dernière ligne droite. Quelle est votre question à maître Cyrane, Selma?
On va essayer de rentrer dans le créneau de 2 minutes. Hein.
Allez, on y va. One, two, three.
Alors, c'est une question qui concerne, donc me concerne moi. Et c'est au sujet d'une infraction commise en Europe, c'est une infraction du code de la route, un petit excès de vitesse. Donc c'était en Hollande en 2016. Mmh. Récemment, en fait, j'ai reçu un avis de condamnation pénale pour ça, avec une amende de 200 euros. Enfin, je pense qu'elle a été majorée, sans retrait de points. Bon, ils appellent ça infraction pénale, donc jugée par le tribunal néerlandais, et donc exécutée en France. Et apparemment, donc le tribunal de Nanterre me condamne de payer cette somme. Et très vite après, j'ai eu une saisie sur mon compte. Donc hier, j'ai reçu deux avis de saisie administrative, alors que le montant a déjà été prélevé sur mon compte bancaire. Du coup, donc, ma question, c'est sur le délai de prescription. Est-ce qu'on a le droit de procéder de cette façon et de réclamer une amende qui date de 2016 et puis saisir directement sans prévenir la personne?
Oui, alors souvent, on a des personnes qui commettent des infractions dans certains pays européens et qui se disent il n'y aura pas de conséquences sur le territoire français. Il faut savoir maintenant qu'il y a des conventions entre certains pays. Donc, une bêtise à l'étranger, vous pouvez...
Sur le délai de prescription.
Sur le délai de prescription, il faut faire attention parce que la prescription s'arrête à partir du moment où vous n'avez jamais rien reçu. Mais si vous avez reçu des relances où il y a eu des majorations de votre amende, la prescription est interrompue.
Et est-ce qu'on a le droit d'aller directement sur votre compte dans ce
cas-là ? Bien sûr, sans aucune difficulté. En règle générale, avant d'aller sur votre compte, on vous relance une fois, deux fois. Et puis, si vous répondez pas, ou si madame n'a pas reçu les courriers, on saisit les comptes, bien sûr.
Bon, Selma, vous allez pouvoir appeler Maître Serran sur son portable. Rapidement, votre numéro, Maître Serran.
06 62 58 59 64. 06 62 58 59 64.
Et il l'a fait dans les temps. On vous retrouve vendredi prochain, Maître Serran.